Troisième partie. Le marchandage. Chapitre 34. Le cabinet du neurologue se trouve au premier étage d'une maison bourgeoise. Quand il entre dans la salle d'attente pour appeler mon père, l'homme semble étonné de le voir accompagné. Je me demande un instant si ma présence est nécessaire, voir si elle est souhaitable. Mon père a peut-être envie d'être seul à se confronter à la réalité. Mais d'un regard, il m'invite à le suivre. « Que puis-je pour vous ?» Je lui tends le courrier écrit par le généraliste et les résultats du scanner. Il prend le temps de consulter l'ensemble avant de lever la tête vers moi. « Quels sont les signes qui vous inquiètent ?» Mon père a les yeux braqués sur moi, et je dois énumérer ses défaillances. C'est déchirant. J'ai l'impression à la fois de le trahir, de parler de lui comme s'il était absent, de le critiquer devant lui et de l'infantiliser. La gêne étouffe les mots dans ma gorge. Il insiste. Dans son courrier, mon confrère affirme que vous constatez des troubles cognitifs. Pouvez-vous me donner des exemples ? Je souris à mon père comme des excuses silencieuses. Je déplie la liste que j'ai préparée et je la lis. À voix haute, je dis ses oublis, ses errances, ses erreurs, sa paranoïa, ses inversions, son irritabilité, ses fringales, sa fatigue, ses compulsions. C'est terrible, comme un long réquisitoire. J'imagine l'impact de chaque mot dans sa poitrine. J'ai envie de contrebalancer, de dire aussi son humour, sa sensibilité qui affleure sous ses manières bourrues, sa droiture, son courage. Mais on n'est pas là pour ça. Ici, on vient chercher le verdict. Du coin de l'œil, je le vois se tortiller sur sa chaise, se triturer les doigts. Le neurologue demande à mon père ce qu'il en pense. « J'en pense qu'il faut pas vieillir. Vous n'êtes pas vieux ?»«
Je sais, je parlais pour vous. »
Le neurologue ne rit pas. Je me sens obligée de préciser que c'était de l'humour. Attitude habituelle, mon père noie sa gêne sous les blagues. Je le regarde, ses yeux pétillent. C'est un gamin mal déguisé en adulte. Le questionnaire commence. Âge, 67 ans hors taxe. Taille, 1m83. Poids, 68 kg. Tabac, une quinzaine de cigarettes par jour, la première à 12 ans. Alcool, à l'occasion. Médicaments, bêta-bloquant pour la tension, antidouleur pour le dos, somnifère pour les soucis. Maladie, aucune. Opération chirurgicale, appendicite, fracture ouverte, amygdale, c'est tout. Quel jour sommes-nous ? Demande le médecin. Mon père répond, ainsi qu'à la série de questions qui suivent. Date exacte. Premier ministre du moment. Dans quelle ville sommes-nous ? En quelle saison ? Dans quel département ? Il ne laisse transparaître aucune émotion. Il n'a l'air ni agacé ni amusé. Il est concentré. Le spécialiste l'interroge sur son mode de vie. Se prépare-t-il à manger ? Sait-il laver son linge ? Fait-il lui-même ses courses ? Conduit-il ? Prend-il ses traitements ? Se lave-t-il ? C'est discret, presque imperceptible, mais je sens poindre son impatience. On passe à une série de tests. Le neurologue cite 5 mots. Fourchette, limonade, vache, parapluie, France. Mon père doit les retenir. Il a ensuite 2 minutes pour énumérer autant d'animaux que possible. Le neurologue lui conseille de les balayer par famille et cite en exemple les poissons. Mon père se lance, en comptant sur ses doigts.
Le gardon, le brochet, la brème, la carpe, le cendre, la tanche, le poisson-chat, le goujon.
C'est tout. De longues secondes s'écoulent, plombées de silence. Ses sourcils sont froncés. Il interroge son cerveau, mais n'obtient pas de réponse. À 30 secondes de la fin, le neurologue l'oriente vers les oiseaux, puis vers les insectes. 24 réponses en 2 minutes. Il me restait peu d'espoir et il vient de s'exploser contre un mur. Le neurologue prend des notes et enchaîne avec un autre exercice. Il dessine un cercle sur une feuille blanche et la fait glisser sur le bureau en direction de mon père.
« C'est une horloge,
Vous devez placer les chiffres dessus.
Je me détends. Je sais que mon père confond les deux aiguilles, mais je n'ai aucun doute. Il sait placer les chiffres sur une montre. Il le sait.
Papa, tu le sais. Le 6 va en bas.
Papa, tu fais quoi? Il doit avoir la tête ailleurs, c'est pas possible. Il fait claquer sa langue, il souffle. Il gigote, remue son pied, il regarde autour de lui, sans doute à la recherche d'un indice. Il s'arrête sur moi. Ce que je lis dans ses yeux me transperce le cœur. Il est complètement perdu.
Je comprends pas, finit-il par dire.
Je le sais, pourtant, mais ça vient pas.
Le médecin laisse passer un long moment, puis tourne la feuille vers lui et écrit 12 en haut du rond. Le soulagement s'inscrit sur le visage de mon père qui approche son stylo du papier et se met à noter. Quand il a fini, il relève son bras, dévoilant sa proposition. À droite du 12, il a placé le 13, puis le 14, et ainsi de suite jusqu'au 30. Les nombres sont serrés les uns contre les autres. Ça ressemble à tout sauf à une horloge. Un examen physique est effectué. Il doit marcher, lire un court texte, effectuer des mouvements avec les bras. Le médecin percute plusieurs endroits de son corps avec un petit marteau. Quand il revient s'asseoir, le neurologue lui demande les 5 mots cités au début du rendez-vous. Mon père applique sa main sur son front et ferme les yeux. Que se passe-t-il là-dedans? Quel tourbillon ce doit être. Je l'imagine courir derrière ses pensées qui s'envolent comme des ballons gonflés à l'hélium. Mon pauvre papa. Le médecin lui donne un coup de pouce.
Il y a une boisson.
Éclaircie, la limonade est citée, ainsi que les 4 autres mots, grâce à des indices. Le neurologue se cale au fond de son fauteuil en compulsant les notes prises tout au long du rendez-vous. Je me ratatine. Je voudrais étirer ces dernières secondes d'insouciance, prolonger encore un peu l'incertitude.
Bon, lâche-t-il. Les résultats de l'examen tomodensitométrique sont cohérents avec ceux des tests réalisés. L'atrophie corticale me paraît modérée, à peine plus importante qu'attendue pour un cerveau d'une 60aine d'années. L'examen neurologique est normal, sans signe de focalisation. Il n'y a pas d'hypopalesthésie aux membres inférieurs et les réflexes ostéotendineux sont tous conservés. Sur le plan neurologique, vous êtes parfaitement orienté dans le temps. Vous semblez vous intéresser peu à l'actualité, ce qui explique pourquoi vous n'avez su me donner le nom du Premier ministre. Vous obtenez un bon score au test des mots de Dubois. En revanche, vos fluences verbales sont diminuées puisque vous n'avez trouvé que 24 noms d'animaux en 2 minutes. Je relève une légère apraxie constructive, mais pas d'apraxie idéatoire et idéomotrice ou réflexive. Je n'ai pas retrouvé de manque de mots ni de paraphrasie. Il y a peu de troubles de la mémoire de type hippocampique.
Je ne saisis pas un mot. Un instant, j'entends une bonne nouvelle et la phrase suivante, je suis accablée. Mon père semble avoir déserté. Il observe les cadres sur les murs comme si nous étions au musée.
En conclusion, poursuit le neurologue, je pense que vous souffrez de paresse cérébrale. Vous devez absolument faire travailler votre tête, suivre l'actualité, faire des mots croisés, lire. Peut-être êtes-vous dépressif. Il serait intéressant d'entamer un traitement. J'enverrai un courrier à votre médecin traitant pour lui faire part de mon bilan.
Sur le parking, quelques minutes plus tard, l'air est le même qu'à l'arrivée. Pourtant, il y flotte une petite odeur agréable. Un neurologue spécialisé dans les troubles de la mémoire a affirmé que mon père n'était pas malade. Il ne peut pas se tromper. Pas vrai? Mon père allume une cigarette. Ça va, papa?
Maintenant, ouais. Je l'aime pas, ce médecin. Il m'inspire pas confiance. Il a l'air franc comme un âne qui recule.
J'éclate de rire. Fort. Trop fort. Trop longtemps. Il fait le pan, fier de lui. Sans se douter que ce n'est pas son expression que j'acclame, mais mon soulagement que je crie.